Le message contenu dans cette cassette a été enregistré le 15 juin 1991 au cours de rencontres organisées par la Ligue pour la lecture de la Bible ayant pour thème les 4 R du réveil personnel ou du vide à la plénitude. Ces messages étaient apportés par le pasteur Maurice Decker, secrétaire général de la Fédération évangélique de France. Ce second message avait pour titre une position stratégique.
Nous voulons lire ensemble ce soir dans ce livre de Ruth les 5 premiers versets qui l'introduisent, sur lesquels nous nous sommes déjà bien arrêtés hier soir, et nous prolongerons ces 5 premiers versets par la lecture des versets 19 à 21. Ruth chapitre 1er, versets 1 à 5 et 19 à 21. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Verset 19. Naomi et Ruth firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Hier soir, nous avons introduit notre sujet. Nous avons brossé une toile de fond pour que les personnages qui sont au cœur de cette petite histoire vraie du livre de Ruth prennent un relief tout particulier, que nous soyons à même de plus facilement nous identifier à certains d'entre eux. Vous avez pu lire sur les feuillets d'invitation que le thème de notre soirée d'hier était donc un choix stratégique. Et nous nous sommes arrêtés sur le choix d'une petite famille, nous l'avons appelée famille à la française, parce que c'était une petite famille, ce qui était anormal pour l'époque et dans la grande tradition juive, et selon les Écritures aussi, puisque cette famille ne se composait que des parents et de deux garçons. Petite famille qui vivait dans une situation difficile, à une période très difficile de l'histoire du peuple d'Israël. Période qui s'est étalée sur plusieurs siècles, en tout cas 3 siècles, sinon un peu plus. Et période où il n'y avait point de roi en Israël et où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et nous avons remarqué qu'au-delà de cette petite indication historique, il y avait une affirmation très profonde, très suggestive et très inquiétante. Il n'y avait point de roi en Israël parce que Dieu n'était plus roi. Parce qu'après la mort de Josué et des anciens qui lui survécurent, une nouvelle génération se leva qui n'aimait pas l'Éternel, qui ne le connaissait pas, qui ne partageait pas une certaine intimité, entre guillemets, avec ce grand libérateur de l'esclavage hors du pays d'Égypte. Et nous avons vu tous les désordres qui s'ensuivirent pour cette succession de générations dont l'histoire nous est résumée dans le livre des Juges. Nous avons évoqué ce cycle se reproduisant cette fois en résumé dans ce livre et qui comportait les quatre R, non pas, hélas, les quatre R du réveil, mais le R du recul ou de la régression, de la rébellion, le R de la rétribution de l'Éternel, suivi du R du réveil, lorsque le peuple crie à l'Éternel dans son désarroi, dans son désordre, parce que la main de l'ennemi s'appesantit terriblement sur lui. Et puis le quatrième R, le R du repos. Et après avoir considéré donc dans un premier temps ce cadre historique, après avoir pris la température spirituelle, morale, sociale de cette époque, cette ère du relativisme, où le bien est pris pour mal et le mal est pris pour bien, ère qui ressemblait étrangement à notre temps. Nous avons braqué en quelque sorte les projecteurs sur cette petite famille. Nous l'avons vu dans cette crise. La main de l'Éternel s'appesantissant sur la région de Bethléem, dans une famine, rétribution à la désobéissance, au refus de cette relation d'amour, de piété avec l'Éternel. Et nous avons vu tout ce qui a pu se passer dans le cœur de ce couple, Élimélec et Naomi, qui avaient donc deux enfants, connaissant très certainement des difficultés dans leur santé, puisque le nom de ces enfants, Maclon et Kilion, signifie respectivement maladie, languissant ou fragilité. Avec tout ce que cela pouvait signifier, concernant la grossesse de la mère, la naissance difficile, les premiers jours, on ne savait vraiment pas si le petit souffle qui animait la vie de ces enfants allait se poursuivre ou s'éteindre très rapidement. Et puis la croissance plus difficile, puisque la suite des premiers versets nous indique que ces deux enfants, devenus grands, devenus hommes et mariés, n'ont même pas eu le temps d'avoir de descendance, ils moururent si rapidement. Et nous avons remarqué comment des pressions ont dû s'exercer sur ses chers parents devant cet horizon sombre. Tous les pourquoi qui ont dû monter vers le ciel. Et comment une tension a dû s'installer d'autant plus grande que lorsque chaque matin, dans le langage de notre temps, Élimélec et Naomi poussaient leurs volets dans les chambres situées du côté de la dépression de la mer Morte et au-delà, sur les collines et les hauts plateaux de Jordanie, ils pouvaient voir ces hauts plateaux couverts de champs, de blé, aux lourds épis, bien gras, bien dorés, balançant au soleil et au vent de la région. Et toute cette tentation de dire, mais après tout, si nous partions, si nous partions pour la santé de nos enfants, si nous faisions un séjour là-bas, mais simplement un petit séjour, jusqu'à ce que ça aille mieux. Et cette idée qui a pu faire son chemin jusqu'au jour où la décision fut prise. Et où cette famille s'ébranla après avoir mis la clé sous le paillasson, avoir dit au revoir, avoir mis le courrier en poste restante, parce qu'on pensait revenir. Et nous avons examiné tout ce que représentait ce choix. Ce choix de se rendre en terre moabite. Contre la volonté de Dieu, même si ce choix était celui d'une sagesse humaine, d'une logique d'un père voulant prendre ses responsabilités. Et pourtant avons-nous dit sagesse d'en bas et non d'en haut. À cause de tout ce que pouvait signifier dans l'histoire depuis la naissance de Moab, l'enfant issu de l'inceste entre Lot et sa fille aînée, ce qui signifiait tant de choses pour l'avenir de ce peuple, déjà présent dans la personne de cet enfant, et puis toute la suite de cette histoire, toute l'idolâtrie, toute la haine, toutes les insultes qui sont montées depuis la terre de Moab vers le trône de l'Éternel. Et puis comment Dieu s'est même servi dans sa souveraineté d'Églon, roi de Moab, durant le temps des juges, précisément pendant 18 ans, pour faire réfléchir Israël et le faire revenir de sa désobéissance. Et finalement, ce texte de Deutéronome sonnant en quelque sorte à vue humaine le glas de la terre moabite, puisqu'il n'était pas question qu'un Moabite puisse entrer dans l'assemblée de l'Éternel, ni même à la troisième, ni à la quatrième, ni même à la dixième génération, à perpétuité. Légalement, l'assemblée de l'Éternel était fermée pour le Moabite. Et pourtant, cette famille était là, dans cette terre hors du plan de Dieu. Et nous avons conclu en évoquant la seigneurie de Dieu, de Christ, sur nos vies. Parce qu'Élimélec signifie Dieu est roi. Et qu'en ce temps-là, où il n'y avait point de roi en Israël, il y avait pourtant un homme dont la signification du nom allait à contre-courant du climat ambiant. Mais cet homme a pris, hélas, une décision qui s'inscrivait, elle aussi, à contrario de son nom. Et alors qu'il proclamait par son nom la seigneurie de Dieu, la royauté de Dieu sur sa vie, il prit un jour une décision qui était contraire au message qu'il voulait apporter au sein de son peuple. D'où toutes les interrogations de la part de Dieu dans son amour. À notre endroit, qu'en est-il de la seigneurie de Christ dans nos choix? Lorsque nous sommes sous pression, en situation difficile, et que le monde nous tend les bras, et nous présente une apparente facilité de solution, quasi déconcertante aux problèmes, parfois tellement compliqués, dans lesquels nous sommes, au sein même de notre fidélité à l'Éternel. Et puis nous avons souligné, parce qu'il le fallait, que le drame d'Élimélec, c'était son écartèlement entre son amour pour l'assemblée de l'Éternel, pour la terre d'Israël, qu'il ne voulait absolument pas quitter à jamais, dont il avait soif, qu'il voulait retrouver. C'était la terre de ses ancêtres, c'était la terre de sa libération, c'était la terre de son Dieu. Et ce temps de séjour en terre étrangère. Écartèlement, un cœur et un cœur, le cœur double, avons-nous dit, d'un homme qui pensait pouvoir maîtriser, dominer son péché. Et nous avons souligné cela hier soir. Nous sommes si souvent naïfs. Nous pensons pouvoir prendre des décisions, nous lancer dans des choix qui n'appartiennent pas à la volonté de Dieu, et nous pensons pouvoir contrôler notre péché. Là où la Bible nous dit que ce n'est pas nous qui contrôlons notre péché, c'est notre péché qui nous contrôle. Et là où Élimélec, dans son choix, pensait contrôler sa situation et pouvoir revenir dans cette terre tellement importante, il ne l'a pas pu. Et trois tombes se sont successivement creusées en terre étrangère, loin du plan de Dieu. Élimélec, Maclon et Kilion. Quel message ! Ainsi, avons-nous pu constater que si l'histoire de Ruth est une belle histoire, riche de la générosité inouïe de Dieu, elle est aussi une histoire qui commence très mal. Le joyau de la grâce étincelante de Dieu repose sur le velours sombre du péché, de la désobéissance, du refus de la seigneurie de Dieu. C'est là, brièvement résumé, ce que nous avons dit longuement hier soir. Nous n'allons pas ce soir, et j'aimerais tout de suite mettre mon ami Raymond à l'aise, nous n'allons pas encore évoquer les quatre R. Je vous expliquerai pourquoi. Nos quatre R du réveil individuel ont besoin d'avoir un certain relief. Nous avons, vous et moi, besoin d'être convaincus par le Saint-Esprit de la nécessité impérieuse dans nos vies de ces quatre R du réveil. Et pour que nous soyons convaincus de cette nécessité, il nous faut faire un chemin préalable. Et c'est pourquoi ce soir encore, nous allons laisser cette liberté au Saint-Esprit, sur la base des Écritures, de nous aiguillonner pour que nos cœurs soient disposés à aborder ensuite ces quatre R du réveil. Mais j'aimerais ce soir évoquer ce qui est indiqué sur vos feuillets d'invitation comme une position stratégique. Une position stratégique. Pourquoi un tel titre ? Tout simplement parce que la faute d'Élimélec, et nous l'avons dit hier soir, nous ne leur jetons pas la pierre. Parce que nous connaissons notre cœur. Nous nous laissons interpeller par cet exemple de l'Ancien Testament, de manière à ce que, comme le disait Paul dans 1 Corinthiens 10, nous puissions éviter de marcher dans les mêmes travers. Tout cela est arrivé pour nous servir d'exemple. Et c'est parce que nous nous passons si aisément de l'Ancien Testament qu'il nous manque ces exemples extrêmement forts, véritables électrochocs pour notre vie de tous les jours, qui pourraient nous permettre, à la lumière de tout ce que nous avons reçu dans la Nouvelle Alliance, d'avancer plus vite et d'être plus féconds que ceux qui avaient si peu de lumière à cette époque de l'Ancienne Alliance. La faute d'Élimélec et de Naomi, donc, est d'avoir quitté une position stratégique. Un territoire sacré, une terre sainte qui suggère aux croyants que nous sommes aujourd'hui et maintenant quatre dimensions de piété, de vie spirituelle dans ses implications pratiques, concrètes. Quatre dimensions de piété absolument indissociables. À ne céder sous aucun prétexte à l'ennemi. Il importe que nous sachions que Satan convoite continuellement ce territoire stratégique. Elimelec et Naomi ont abandonné les champs de Bethléem pour les champs de Moab. Et je le dis bien volontiers ce soir parce que le livre de Ruth pourrait s'intituler le livre des champs. MPS, bien entendu. Tout simplement parce que dans le texte original, le terme champ revient 14 fois dans les 4 chapitres. Et là où nous avons généralement dans notre texte français le mot pays, comme pays de Moab, en réalité, dans le texte original, il s'agit des champs de Moab. L'histoire de Ruth est véritablement une histoire champêtre. Et nous pouvons d'autant plus insister sur cette dimension-là que, au chapitre 2, au verset 8, Boaz, sur lequel nous reviendrons, qui annonce par excellence la personne de Jésus-Christ, et dans son œuvre, et en particulier dans son œuvre de rachat, mais aussi dans son caractère, la personne donc de Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Et nous aurions pu construire notre série de réflexions tout au long de ces soirées sur le thème des champs. Le champ de la loi, le champ de la grâce, le champ de la désobéissance. C'est tout un thème qui traverse tout le livre de Ruth. Ne va pas dans un autre champ, et Boaz insiste en disant ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Ce qui est intéressant ici, c'est que le mot reste que nous avons, en tout cas dans ma version, verset 8, est le même terme dans le texte original que celui qui figure au verset 14 du chapitre 1er. Elles élevèrent la voix, donc Orpa et Ruth pleurèrent ensemble. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et il faut savoir que le terme rendu en français par s'attacher dans ce verset, ou par rester au chapitre 2, verset 8, c'est le même terme hébreu que vous trouvez dans Genèse au chapitre 2 et au verset 24, dans ce que j'appellerai l'institution du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, littéralement se soudera, se collera, dans le sens le plus fort de cette expression, qui englobe bien au-delà de la simple réalité d'intimité sexuelle, tout ce que peut représenter l'unité de deux personnes qui en quelque sorte se fondent en une seule, dans le domaine spirituel, moral, social, dans tous les domaines de leur vie, jusque dans cette intimité sexuelle. Alors c'est intéressant, n'est-ce pas? Ne t'éloigne pas d'ici, mais colle avec mes servantes. Identifie-toi à elles, reste avec elles. Là, dans ce champ, tu es en sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que Naomi va être une merveilleuse conseillère pour sa belle-fille, au point qu'au chapitre 2 toujours et au verset 21, entendant, oui, Ruth va lui raconter, verset 21, il m'a dit aussi, reste, vous voyez, elle reprend cette expression, elle a été frappée par cette expression, elle l'a reproduite telle qu'elle. Tellement cette expression était vigoureuse, reste, colle avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi, dans cette unité spirituelle fantastique, va abonder dans le sens de Boaz en disant, il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Vous voyez donc l'importance du territoire dans cette histoire. L'importance de ne pas se situer dans n'importe quel champ. Il y a un champ qui est dans la plénitude de Dieu. Il y a peut-être un champ qui est dans la tolérance de Dieu. Et il y a aussi un champ qui est dans la désobéissance flagrante à la volonté de Dieu. Ça, c'est Moab. Choisis le meilleur champ. Tiens-toi à cette position stratégique qui consiste à rester vraiment sur le seul territoire où tu es assuré, quelles que soient les tempêtes, les difficultés de la vie, d'être le béni de Dieu. Procéder ainsi, c'est nous permettre de décrire ce soir ensemble ce que j'appellerais tout simplement le processus de la vie rétrograde. Qu'est-ce que c'est donc, aux yeux de Dieu et dans sa parole, qu'être rétrograde? D'un mot, être rétrograde, c'est quitter cette position stratégique dont nous allons nous entretenir. Et nous allons simplement ce soir, et peut-être si nous n'avons pas terminé tout à l'heure, nous commencerons demain en terminant la quatrième ou les troisième et quatrième dimensions, mais nous allons prendre ces quatre dimensions l'une après l'autre. Elles sont dans le texte. Quelle est la première dimension à ne céder sous aucun prétexte à l'ennemi? Oh, c'est tout simple. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit. Bethléem. 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 Beth, Bethanie, Bethsaïda, Bethphagée, etc. La maison. La maison du pain. La maison du pain. Et pour nous, la maison du pain, c'est le Seigneur Jésus. Bethléem, double allusion à Jésus-Christ. Lieu par excellence de l'incarnation dans ses tout débuts. Et puis aussi annonce de celui qui s'est présenté comme le pain qui suffit, qui satisfait pleinement, qui nourrit véritablement. Élimélec a perdu le contact avec son roi, avec la source de l'abondance. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal qui fait toute la beauté du livre de Ruth et qui nous montre l'infinie intelligence de Dieu qui a réussi ce tour de force pour nous, mais qui pour lui n'est rien, de nous donner une histoire vraie dans ses moindres détails en permettant, n'est-ce pas, cette harmonie dans les termes, dans les situations, pour que nous soyons frappé en plein cœur par certaines vérités que nous avons besoin d'entendre. Le paradoxe ici, c'est précisément dans le fait qu'on quitte la maison du pain pour aller chercher du pain ailleurs. C'est le boulanger hein, qui a trimé, voire pendant des années, qui a produit des pains qui ont réjoui une multitude d'habitations de la ville ou du village et qui un jour ferme la boutique et qui met une petite indication, désormais je vais acheter mon pain dans le village voisin. Vous vous rendez compte? Oh, comment Dieu est pédagogique pour nous choquer, pour nous montrer la folie de nos attitudes. Tout simplement parce que C'est une chose que la vie avec le Seigneur nous apprend. Satan nous laisse toujours entendre que nous pouvons trouver ailleurs qu'en Jésus-Christ tout ce dont notre cœur a besoin pour être satisfait. Et nous avons en écho dans le Nouveau Testament, à ce début de l'histoire de Ruth, une des paraboles les plus connues dans le monde entier. La parabole du fils prodigue. Souvenez-vous de ce fils, qui dans une situation de famine, l'unité des Écritures, se souvenait de ses collègues, des serviteurs aussi, de toute la famille à la maison. Il reconnaissait qu'il y avait l'abondance à la maison. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché, à un moment donné de sa jeunesse, de considérer son père comme mort, en lui arrachant un héritage qui ne devait lui échoir qu'à la mort du père. C'était terrible. Parce qu'il pensait que l'abondance était ailleurs. Et je reconnais que c'est là mon problème. Et je reconnais que la vie rétrograde, chez moi, commence toujours par la perte d'une relation vivante avec la personne de Jésus-Christ. Je suis rétrograde dès que j'abandonne le Seigneur Jésus-Christ. Dès que je l'oublie. Et c'est là le grand cri des prophètes, dans le livre des Juges, au chapitre 2 déjà. Ils m'ont abandonné. Et c'est là que le livre d'Osée devient intéressant. C'est là qu'il devient intéressant parce que le livre d'Osée, c'est le drame de la prostitution d'Israël. Chapitre 1 à 6, 29 fois prostitution, amant, adultère. Comment résumer le message du livre d'Osée? Au cœur de ce message, une proclamation bouleversante dans l'ancienne alliance. Dans cette alliance dont on dit qu'elle est celle d'un Dieu de colère, d'un Dieu sanguinaire, d'un Dieu implacable. Malgré le fait que sur le mont Sinaï, d'où il donna la loi, il fut aussi celui qui fit une des plus belles déclarations d'amour des Écritures à Moïse lorsqu'il lui montra sa bonté sur le Sinaï, en évoquant sa bienveillance, sa lenteur à la colère, sa grandeur en miséricorde, son amour allant jusqu'à 1000 générations. C'était le Dieu du Sinaï. Mais c'est au cœur du livre d'Osée qu'éclate d'une manière toute particulière l'amour de Dieu dans sa plus forte intensité. Dieu aime Israël d'un amour entier, d'un amour absolu, au point que nous avons dans l'Ancien Testament un terme hébreu extrêmement fort, la recette de Dieu. C'est-à-dire un mot qui est d'une telle richesse qu'il est pratiquement impossible de le rendre par un ou deux mots en langue française. Cela a embarrassé les traducteurs et vous n'avez pas une seule, deux versions qui est exactement la même traduction, tellement ce terme est riche. Parce qu'il est question de l'amour indéfectible de Dieu, de l'amour loyal de Dieu, de sa solidarité, d'un amour sans variation, d'un amour qui se traduit en fidélité, en tendresse, en bonté, en miséricorde, en droiture, d'un amour constant, d'une volonté inébranlable de tenir sa promesse de grâce vis-à-vis de son peuple. Bref, la recette de Dieu, c'est l'amour de l'alliance. Cet amour qui est exprimé dans Ésaïe 54, verset 10, et qui a été rendu par ce merveilleux cœur quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient. Mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne s'éloignera pas, ne chancellera pas, dit le Seigneur. Un amour indéfectible. Et cet amour, nous le savons, nous, il fut manifesté un jour dans le don de Jésus-Christ. Un amour fort comme la mort. Et ce terme précède, je le signale au passage, figure plusieurs fois dans le livre de Ruth. Vous l'avez, par exemple, au chapitre 1er et au verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté. » C'est ce qui est dans ma version. Mais vous avez peut-être un autre terme, à cause de ce mot recette, n'est-ce pas? De loyauté, de solidarité, de compassion, de miséricorde. Vous pourriez en mettre des termes ici. Mais c'est ce fameux petit mot qui est au cœur du message du livre d'Osée. Vous le retrouvez au chapitre 2 et au verset 20. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux. C'est le même terme. Au point même qu'une autre version a rendu par ces termes celui qui n'abandonne pas sa fidélité. Vous l'avez une troisième fois encore au chapitre 3 et au verset 10, lorsque Boaz s'adresse à Ruth et lui dit « Sois béni de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait, c'est plat, ce dernier trait. Parce que le terme, dans l'original, c'est le mot « recède », qui a été parfois rendu par cette dernière marque de loyauté, de droiture morale, d'amour désintéressé, témoigne encore plus en ta faveur que la première. Et cette dernière mention est importante. Parce qu'elle montre que dans les Écritures, le terme « recède » n'est pas utilisé seulement pour caractériser les relations de Dieu avec son peuple, mais pour caractériser la réciproque, c'est-à-dire les relations du peuple avec son Dieu, de Ruth avec ce Dieu qu'elle recevait dans sa propre vie. Et cela m'amène à faire remarquer que dans ce grand message du livre d'Osée, il nous est dit que Dieu attendait d'Israël un amour aussi entier. La recette du croyant à l'égard de son Dieu, qu'est-ce que c'est? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Opération, mobilisation, amour. Toutes mes facultés. Non seulement la part sentimentale et affective, mais la part décisive, volontaire, active, de toute ma force. Oh, combien il serait intéressant de creuser ce commandement de l'amour. Pour voir combien notre amour à l'endroit de Dieu est tronqué, déséquilibré, parfois terriblement cérébral, au détriment de l'émotionnel, mais aussi, disons-le, parfois terriblement émotionnel, au détriment de l'intelligence appliquée qui s'appelle dans les Écritures la sagesse, le bon sens d'en haut. Amour parfois terriblement platonique, si loin du concret, de la réalité, de notre vie de tous les jours, dans nos relations personnelles, pratiques, au niveau du porte-monnaie, de l'engagement, de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Mais c'est ce que Dieu attendait. Dieu attendait d'Israël un amour qui ne tolère aucune rivalité, parce que Dieu est un Dieu jaloux. D'une vraie jalousie!
celle que je veux admirer chez mon épouse. Je bénis Dieu de m'avoir donné une épouse jalouse, dans le bon sens de la jalousie. Non pas qu'il va faire une histoire à toute femme qui s'approcherait de moi pour me poser une question. Ce serait une jalousie maladive, inquiétante. Mais une femme qui n'a qu'un mari et qui veut être le seul jardin secret de son mari. Une fontaine scellée, comme dit le cantique des cantiques, un jardin fermé, une source fermée. Nous pouvons comprendre, sans être choqués, la jalousie de Dieu. Elle est légitime, elle est juste, elle est marquée au coin de sa sainteté parfaite. Dieu dit à son peuple, tu seras loyal, tu n'auras pas d'amant secret. Et hélas, le livre d'Osée, c'est le chant de l'amour bafoué de Dieu. Dieu rugit dans son amour, dans la souffrance de son cœur, parce que nous n'avons pas un Dieu impersonnel, froid, théorique, abstrait, lointain, détaché. Il s'est incarné en Jésus-Christ. Et déjà dans l'Ancienne Alliance, il souffre. Et il souffre par moments atrocement de l'infidélité d'un peuple qu'il a couvert de son amour. Mais Israël a bafoué l'amour de Dieu en se prostituant aux nations alentour et en devenant l'amant de leurs idoles. Et nous avons ces textes que je lis comme cela très rapidement les uns après les autres. Elle a suivi ses amants. Et moi, elle m'a oublié, dit l'Éternel, Osée 2.15. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de fidélité, point de loyauté, point de chesed, le voilà le terme. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Nous retrouvons notre terme d'hier soir, connaître Dieu. Chapitre 4, verset 1er. Ou encore chapitre 10, verset 1er 2. Littéralement, leur cœur est partagé. Ou encore, chapitre 9, verset 9. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. Si vous avez lu Juges chapitre 19, vous savez ce que cela veut dire. Il y a dans le livre d'Osée une allusion à ce temps des juges au cœur duquel se situe cette échancrure de lumière dans ce temps de ténèbres. Les jours de Gibéa. La relation vivante avec Dieu est peu à peu remplacée par la religion, par la tradition des anciens, le formalisme, la piété apparente, sans force, mais nécessaire, parce que quelque peu sécurisante dans le désarroi du cœur, torturé par le travail du Saint-Esprit. Il faut apaiser le cœur. Il faut quand même qu'il reste quelque chose comme marque de piété. Ce qui fait dire à l'Éternel dans Osée chapitre 6, verset 6, « Car je veux la loyauté et non le sacrifice. » Et la connaissance de Dieu, toujours la recette, hein, la loyauté, et la connaissance de Dieu, connaissance pratique, appliquée de la personne tout entière, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et un homme de Dieu du siècle dernier a rendu en version libre le chapitre 7 et le verset 14. Ils ne mettent jamais leur cœur dans leur prière. Ils ne mettent jamais leur cœur dans leur prière. Attention, leur cœur. Le cœur dans ce qu'il signifie dans les Écritures. C'est-à-dire littéralement le quartier général de notre individualité. Pas simplement le siège des émotions,
de l'affectivité, du sentiment, mais de l'intelligence, de la raison, de la volonté. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est un des termes les plus importants dans le vocabulaire de Dieu à la portée de l'homme dans les Écritures, puisqu'il figure près de 1000 fois dans les Écritures. Le cœur. Ils ne mettent jamais leur cœur, c'est-à-dire qu'ils n'investissent pas toutes leurs facultés dans leur vie de prière. Parce qu'on peut pleurer même en versant des larmes de crocodile. On peut prier en versant des larmes de crocodile. On peut prier avec des débordements émotionnels qui laissent alors Dieu froid quand ils ne le mettent pas en émoi dans une parfaite indignation. Et il est vrai qu'Israël se rendait dans les sanctuaires païens tout en jurant « L'Éternel est vivant », chapitre 4, verset 15. Je relisais aujourd'hui dans le livre des Juges l'histoire de la relation entre Samson et Dalila. Et comme une flèche est venue à mon cœur en pensant à ce soir, ce verset 15 du chapitre 16. Lorsque Dalila, voulant soumettre Samson aux Philistins et voulant donc lui arracher le secret de sa force, finit par lui dire « Mais comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ?» Si Dieu nous disait cela ce soir, comment peux-tu me dire « Je t'aime » alors que ton cœur n'est pas avec moi ? Il n'y a pas que des Dalila qui disent cela. C'est ce que Dieu crie. C'est ce que Dieu a crié à Israël par la bouche des prophètes. Et c'est ainsi que la vie rétrograde signifie perte de la soif d'aimer Dieu et de le chercher. On ne se plaît plus dans la compagnie de Jésus-Christ. Comme dans ces mariages, hélas, si nombreux qui se refroidissent avec le temps. Où non seulement on ne recherche pas la compagnie du conjoint, mais on finit même par la fuir. Je voulais dire, soir, une de mes joies, durant ces jours ici, c'est d'avoir mon épouse avec moi. C'est ma joie, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et je serais inquiet si je devais partir en disant bon débarras. Pour quelques jours, ouf, je serais tranquille. Mais il en est ainsi de notre relation avec Dieu. Est-ce que nous nous plaisons dans sa compagnie ? Satan fait toujours tout pour que quelqu'un, un quelconque Moab, se glisse entre le Seigneur Bethléem et moi. Première dimension de ce territoire sacré à ne jamais quitter. Bethléem. Nous pouvons maintenant envisager la seconde dimension de ce territoire sacré, toujours au chapitre 1er, dans les tout premiers versets, puisqu'il est ajouté au verset 2 que je lis, le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Éphrata. Éphrata. Nous allons voir qu'Éphrata est un terme important dans les Écritures. Éphrata, et cela est intéressant, signifie fécondité, pleine de fruits. Et vous remarquez que c'est étroitement associé à Bethléem. Ça se prononce en quelque sorte dans le même souffle. Bethléem Ephrata. Ephrata était certainement le nom primitif de Bethléem. Plusieurs hypothèses. En tout cas, d'après 1 Chronique 4, verset 4, Ephrata était le nom de la mère de Hur, père de Bethléem. C'est intéressant, vous le lirez dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 4. Donc il y a là une remarque intéressante, il s'agit du nom primitif des fondateurs de la cité. Et ce n'est pas innocemment que le rédacteur, inspiré, a écouté l'Esprit de Dieu en rédigeant et a indiqué donc qu'ils étaient Éphratiens. Sans doute était-ce pour souligner que peut-être la faute d'Élimélec était d'autant plus grave qu'il était un peu comme un des principaux officiers d'un bateau sur le point de sombrer, qui part même avant les femmes et les enfants et les passagers masculins, simplement. Il faisait partie, semble-t-il, d'une des familles fondatrices de la cité. Il était donc, plus que d'autres, une sorte de gardien vigilant de la cité. Il était un vrai bourgeois de la cité. Ça pouvait donc, en quelque sorte, choquer d'autant plus que cette décision de partir. Mais au-delà, cela signifie que perdre la relation intime avec Christ, c'est perdre la vie de plénitude, c'est perdre la fécondité, c'est perdre l'abondance intérieure, qui n'est pas forcément en contradiction avec toutes les tribulations que nous pouvons connaître dans notre marche avec le Seigneur. Parce que la plénitude de satisfaction, nous l'avons dit, nous ne la trouvons qu'en Christ, qu'en lui. Il n'y a pas de plénitude possible en dehors de Jésus-Christ. Et nous aurons l'occasion d'aborder par un autre biais cette affirmation, lorsque nous évoquerons notamment l'un des R. Mais ce sur quoi nous voudrions beaucoup insister ce soir avant de conclure, c'est sur le fait qu'on ne peut pas, ni ne doit, dissocier la fécondité et la plénitude de la personne de Jésus-Christ lui-même. Vous avez tout pleinement en Christ. Littéralement, dit le texte grec, vous êtes rempli en lui. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul en qui réside de manière permanente la plénitude, le pléroma, qui était un terme d'une extrême force, la plénitude la plus absolue, non pas même de la divinité, c'est la faiblesse de nos traductions, mais parce qu'il y a là un mot unique dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament. La plénitude, cela a été rendu d'ailleurs très remarquablement par la version Darby, ce mot unique valait bien en français un mot unique, la plénitude de la déité. Jésus-Christ n'est pas un petit Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu que nous pouvons connaître une vie féconde, que nous pouvons connaître une vie abondante, même dans nos déserts d'éducation, même dans nos souffrances, dans les oppositions, lorsque nous avons le sentiment que nous ne sommes pas dans cette plénitude, alors que nous marchons avec Dieu, nos déserts d'éducation peuvent être en eux-mêmes une abondance et une plénitude que nous reconnaissons avec le recul de l'expérience. Oh, je ne parle pas de ces déserts qui sont liés aux désobéissances, mais de ces déserts nécessaires qui nous apprennent à compter sur lui seul. Un riche propriétaire américain avait un fils unique qu'il aimait beaucoup, c'est une histoire vraie. Et il avait fait faire un portrait de ce fils peu avant son décès. Et ce fut un grand chagrin pour ce père et également pour un vieux serviteur qui aimait beaucoup le fils et le père et qui avait servi là dans ce vaste domaine pendant de longues années. Le propriétaire mourut à son tour. Et comme il n'avait aucun héritier direct, il indiqua dans son testament que tout ce qui lui appartenait serait distribué selon les indications figurant dans la suite de ce testament à tous ceux qu'il avait servi tout au long des années. Convocation fut donc envoyée à tous ses serviteurs pour un jour et une heure donnée dans une des grandes pièces de la principale des propriétés du domaine. Vous imaginez les cœurs qui battaient la chamade, parce qu'on n'ignorait pas toutes les richesses accumulées par ce propriétaire. Et chacun d'y aller de son rêve concernant l'un pour l'un la Rolls, pour l'autre telle propriété à tel coin du pays, etc., etc., n'est-ce pas ? Et c'était donc dans une ambiance tout à fait particulière que tous ces serviteurs se réunirent autour du notaire, des huissiers, du personnel, etc. Arrive le moment donc où le notaire commence la lecture et indique que les premières lignes du testament stipulaient que le premier objet qui était offert au serviteur était le portrait du fils bien-aimé. Mais il n'y avait pas d'attribution précise. Le portrait était à celui qui le voudrait. Il lui suffisait pour cela simplement de se lever de sa place et de venir devant pour en prendre possession publiquement. Une sorte de flottement s'installe dans la salle. On commence à entendre un bruit de murmure, avec ici et là quelques notes de mépris et d'ironie. Pensez donc, une vieille croûte, comme on dit, n'est-ce pas, alors qu'il y avait Rolls, qu'on risquait de manquer. Et voilà que dans cette agitation bizarre, le vieux serviteur se fraye un chemin, s'avance, et là, devant toute la salle, des larmes ruisselant le long de ses joues, dit « J'aimerais tellement avoir ce tableau. » Et il repart à sa place, presque sous les colibés de ses collègues, serrant contre son cœur le tableau représentant celui qu'il avait tant aimé. Le silence se rétablit peu à peu lorsque le notaire reprend la parole et indique simplement la phrase qui suit « Pour la suite de mon héritage, celui qui reçoit mon fils reçoit tout. Celui qui reçoit mon fils reçoit tout. Combien Dieu m'a parlé lorsque j'ai entendu cette histoire pour la première fois. Celui qui reçoit mon fils reçoit tout. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas de repos, car il me fait reposer dans de verts pâturages. Je ne manquerai pas de rafraîchissement, il me dirige près des eaux paisibles. Je ne manquerai pas de protection, il restaure mon âme. Je ne manquerai pas de direction, il me conduit. Je ne manquerai pas de paix, je ne crains aucun mal. Je ne manquerai pas de compagnie, tu es avec moi. Je ne manquerai pas de réconfort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne manquerai pas de nourriture, tu dresses devant moi une table. Je ne manquerai pas de joie, tu oins d'huile ma tête. Je ne manquerai de rien, ma coupe déborde. Je ne manquerai pas de bonheur dès ici-bas, car le bonheur et la grâce m'accompagnent, et je ne manquerai pas de gloire dans l'avenir, car j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh, je pense à ce témoignage qui date du 4e siècle de notre ère. C'est vieux, hein? Et qui est d'un de ceux qu'on appelle les pères de l'Église, Ambroise. Oh, que j'aimerais qu'il soit là ce soir. Vous allez voir pourquoi. Voilà ce qu'il dit au 4e siècle. Hein? En Jésus, j'ai trouvé un ami qui, lorsque je vivais loin de lui, s'est approché de moi, m'a parlé et a gagné mon cœur. En lui, j'ai trouvé un sauveur pour le temps et l'éternité. Après m'avoir montré mon cœur corrompu, il m'a révélé son grand amour et a effacé mes péchés au prix de son sang précieux. En Jésus, j'ai trouvé un guide fidèle qui, dans les moments de faiblesse, a empêché mon pied de glisser, m'a préservé des chutes. En Jésus, j'ai trouvé aussi un défenseur. Car lorsque Satan m'a attaqué, il s'est toujours placé devant moi et a repoussé l'ennemi qui cherchait à me terrasser. Oui, en Jésus, j'ai tout trouvé. Ce que le monde n'a jamais pu me donner, et après quoi mon cœur a longtemps soupiré, je l'ai trouvé en lui. C'est pourquoi je suis pressé de dire à tous ceux qui soupirent après la paix, la joie et le repos, venez à Jésus. En lui sont cachés des trésors dont il fait part à tous ceux qui croient en lui et qui désirent le suivre et le servir. Il est encore le même aujourd'hui et offre librement la vie éternelle, la paix et le bonheur pour toujours. Vous comprenez pourquoi j'aimerais qu'il soit là? J'aimerais qu'il soit là pour lui dire, mais mon frère, tu disais il y a si longtemps en arrière exactement ce que j'éprouve le besoin de dire ce soir. Dieu n'a pas changé. En quelques 16 siècles, Dieu est resté le même. Ce qui a d'ailleurs fait dire à un croyant anonyme qui avait été l'objet des soins du Sauveur dans l'adversité ces quelques lignes, « Suis-je blessé ? Il est le baume. Suis-je malade ? Il est le remède. Suis-je pauvre ? Il est la richesse. Suis-je affamé ? Il est le pain. Suis-je assoiffé ? Il est l'eau. Suis-je en dette ? Il est ma caution. Suis-je dans les ténèbres ? Il est mon soleil, mon bouclier. Dois-je affronter une tempête et de sombres nuages ? Il est une encre sûre et solide. Suis-je accusé ? Il plaide pour moi parce qu'il est mon avocat. Oui, dans tous mes besoins, le Christ est mon tout. » L'amour de Dieu, incarné en Jésus-Christ. Une fontaine qui ne cesse jamais de couler. Une source qui ne tarit jamais. Un soleil qui ne se couche jamais. Voilà ce qu'est Jésus pour moi. Comme on le dit dans le domaine juridique, j'ai le privilège, aux côtés du Seigneur Jésus, d'être propriétaire en indivision. Vous savez ce que c'est? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'être propriétaire en indivision, je peux vous dire ce que c'est, parce que c'est une chose qui, sur la terre, est extrêmement délicate à gérer. Lorsque j'étais pasteur d'une église évangélique en Bretagne pendant une dizaine d'années, avant d'entrer dans un ministère beaucoup plus marqué par les voyages, nous avons reçu une donation après décès d'un ami qui nous a offert un cadeau empoisonné. C'était une propriété en indivision. C'est-à-dire que la même propriété était offerte à un certain nombre de personnes qui devaient s'arranger entre elles pour la gérer. Alors il y avait une autre église, mais il y avait aussi des gens, il y avait notamment la veuve de ce croyant qui n'était pas croyante, et d'autres personnes. Eh oui, comme vous dites, c'est idiot de faire ça. Mais ça existe. Mais mes bien-aimés, ce qui est idiot sur la terre n'est pas idiot dans le ciel. Parce que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que nous sommes gratuitement propriétaires en indivision. C'est-à-dire que Dieu nous dit en Jésus-Christ ce que le Père disait au Fils prodigue à son retour. Tout ce que j'ai est à toi. En Jésus-Christ, Dieu nous dit exactement ce que Bose a dû dire en se tournant vers Ruth la Moabite, juste après la cérémonie de mariage. Ma chérie, autrefois tu glanais, tout en voyant la faucheuse, moissonneuse, batteuse, lieuse qui faisait un travail fantastique en quelques heures, pendant que toi, tu courbais ton échine sous le chaud soleil. Eh bien maintenant, ma chérie, tout ce que j'ai, c'est à toi. Propriétaire en indivision. Éphésiens, chapitre 1er, verset 1 à 14. Dit d'un seul souffle, écrit sans le temps de mettre un signe de ponctuation. Tellement l'apôtre Paul, dans toutes ses vicissitudes, était rempli de cette plénitude qui n'existe que dans notre intimité avec Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, au sein des tempêtes et des tribulations les plus profondes. Bethléem, Ephrata. Il nous faut terminer pour cette première partie, et j'aimerais le faire simplement en soulignant, par contraste, dans notre texte, le drame de notre amie Naomi. Tout d'abord, ces versets terribles, 3 à 5, Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils, qui habitèrent là environ 10 ans, et qui moururent aussi tous les deux, et elle resta privée de ses deux fils et de son mari, sans aucune descendance mâle. Ce qui était tellement important en terre d'Israël. Surtout qu'il n'y ait jamais une branche de cet arbre généalogique d'Israël qui ne soit retranché par l'absence d'un descendant mâle. Dieu a tout fait pour qu'il n'en soit pas ainsi. Mais en attendant, cette femme, sur sa vieillesse, se retrouve là en terre étrangère, complètement privée de tout, sans aucune solution pour remédier à ce problème. Et la voilà, et c'est pour cela que nous avons lu les versets 19 et suivants, et notamment les versets 20 et 21. Cette ville, littéralement en ébullition, dit une traduction, très justement d'ailleurs, toute la ville fut littéralement en ébullition à cause de ces deux femmes. Et ces femmes disaient, mais est-ce là Naomi ? Se frotter les yeux. Et Naomi qui leur dit, ne m'appelez pas Naomi, ma gracieuse, mon charme, ma gaieté, ma beauté, mon rayon de soleil. Non, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant, littéralement, on pourrait rendre, c'est exact, nous n'avons pas de contestation avec le texte, mais une autre manière de le rendre à cause de la richesse du texte serait de faire ce que Tob fait,
car le Tout-Puissant m'a rendu amer à l'extrême. C'est-à-dire que l'expression qui est utilisée ici fait penser à d'autres textes de l'Ancien Testament où l'amertume est associée à la mort. Extrêmement fort. Le Tout-Puissant m'a rendu amer à l'extrême. Nous avons parlé de l'odeur de mort, du vide qui s'installe jusqu'à la solitude. Et nous parlons ici de stérilité. Naomi rentre les mains vides et le cœur sec. Et là encore, la Bible est inspirée dans ces mots. À condition, bien sûr, que ces mots figurent dans le texte original. Et ici, il y a un mot très important. Naomi fait attention. Elle n'utilise pas n'importe quel terme dans sa détresse. Elle utilise curieusement le terme « tout-puissant ». Vous avez remarqué ? Le « tout-puissant » m'a rendu amer à l'extrême. Et elle le répète. Deux fois, ce terme se trouve dans le même texte. Et vous savez que dans les Écritures, les répétitions sont volontaires. Quand Dieu veut nous rendre attentifs à un message important, généralement, il s'arrange pour le répéter. Deux fois. Amen, amen, en vérité, en vérité. Trois fois même, quand c'est un message suprême qui concerne le caractère de Dieu. Saint, 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 n'est-ce pas ? Il y a tout un message qui est caché derrière cela. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le Tout-Puissant revient deux fois. Ce sont les deux seuls endroits de tout le livre de Ruth. Ailleurs, y compris entremêlé à ces deux termes tout-puissants, l'autre expression, l'éternel, qui revient lui, elle ou lui, 18 fois dans le livre de Ruth. Deux fois d'un côté, 18 fois de l'autre. Et l'éternel, c'est dans le texte original, bien sûr, Yahvé, c'est-à-dire le Dieu de l'Alliance. Le Dieu fidèle, le Dieu bienveillant, le Dieu libérateur de l'esclavage, le Dieu de la Hesed, l'alliance de l'amour et l'amour de l'alliance. Alors pourquoi ce changement ? Tout simplement parce que Shaddai, tout-puissant Shaddai, c'est le Dieu parfaitement suffisant. Quand Dieu s'est révélé de cette manière pour la première fois à Abraham, c'est parce qu'Abraham était dans une situation où il avait besoin de réaliser que Dieu était tout-puissant, parfaitement suffisant pour ses besoins, et notamment pour son besoin de patience dans l'attente de la naissance du Fils de la promesse, parce que ce terme est utilisé pour la première fois dans l'histoire d'Abraham, après Genèse 16, et la chute de l'impatience, de l'incrédulité qui a amené la naissance d'Ismaël. Près d'une quinzaine d'années plus tard, 14 ans plus tard en tout cas, Genèse 17, 1 et 2, Dieu se révèle comme le Dieu tout-puissant. Le Dieu parfaitement suffisant. Abraham, ne bricole pas. N'essaye pas de faire avec tes petites forces ridicules ce que moi, le grand Dieu, je suis capable de faire à mon heure d'une manière que tu ne regretteras jamais. Alors, voyez, c'est à dessein. C'est à dessein que Naomi veut souligner le paradoxe de sa situation. Elle a appris sa leçon. Sans doute Dieu lui a-t-il dit en Moab, mais écoute, Naomi, pourquoi avez-vous essayé de bricoler une solution charnelle pour avoir l'abondance ? Est-ce que tu ne te souviens pas que je suis Shaddai ? Que je suis le Tout-Puissant même en temps de famine pour ceux qui me sont fidèles ? N'ai-je pas été avec tes ancêtres qui ont été fidèles quand ils étaient en temps de famine ? Les ai-je abandonnés ? Si j'ai été leur Dieu dans la famine parce que eux voulaient marcher à contre-courant par fidélité, ne crois-tu pas que j'étais capable d'être fidèle vis-à-vis de toi dans ta situation? Alors, bien sûr, en retrouvant ces femmes à Bethléem, ce message était là. Mon problème, c'est que je suis parti aux côtés de mon mari parce que, en ce temps-là, nous avons oublié que Dieu, c'est Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Et le drame, finalement, le drame de ma vie, c'est que ce Tout-Puissant Shaddai est obligé de me ramener les mains vides. Et ça commence par là. Il va les remplir. Et en fait, elle commençait à entrevoir la bénédiction. Mais cette bénédiction allait exploser dans les chapitres suivants, n'est-ce pas? Combien ce texte est riche et suggestif. Naomi souligne donc là le paradoxe. Ce Dieu-là la ramène les mains vides et le cœur vide. Or, qu'avons-nous dit? Nous avons dit qu'ils sont partis à cause de la famine. Or, vous avez remarqué ce qu'elle dit maintenant? J'étais dans l'abondance à mon départ. C'est fou, hein? 10 ans plus tard, Naomi reconnaît que dans sa situation de famine, elle était dans l'abondance. Et je le comprends. Je le comprends. Mieux vaut être dans la tempête avec un cœur en paix que de ne pas connaître de tempête, peut-être avec un cœur troublé. On peut avoir les poches pleines et le cœur vide. Et ça a été le drame d'Elimelec et de Naomi. Ils ont connu une abondance matérielle, il n'y avait plus de famine, il y avait du pain à satiété pour le corps, mais rien ne vaut la paix du cœur. Et Naomi était capable de se souvenir qu'elle connaissait au moins cette abondance-là. Tant qu'elle était dans le plan de Dieu, c'était peut-être dur, on comptait peut-être les sous, on coupait la miche en tout petits morceaux, mais Dieu était là. On était sous son regard, on avait son approbation. Oh, maintenant, pour le pain, on en jette, on en donne au lapin, on en jette à la poubelle. Mais là-dedans, c'est ce qui a fait dire d'ailleurs à Victor Hugo, « Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. » Et les fameux frères Edmond et Jules de Goncourt, qui ont donné le nom au fameux prix Goncourt, ont dit un jour, « L'argent n'est que la fausse monnaie du bonheur. » Venant d'eux, c'est fort. Faut-il le dire ce soir? Qu'est-ce qui tue l'Église de Jésus-Christ en Suisse? Oh, je ne vous jette pas la pierre. En étant français. Mais je suis en Suisse ici, hein, vous ne m'en voudrez pas. Et je visite la Suisse chaque année depuis 25 ans. Et je crois que ce qui tue l'Église de Jésus-Christ, ce sont les sous. Il n'y a plus d'Ephrata, trop souvent dans nos vies. Parce qu'il y a trop de Moab dans nos vies. C'est si facile. On peut acheter si facilement. Et je pense en vous disant cela, tous ces pays que je visite d'année en année, outre-mer, dont certains sont parmi les pays les plus pauvres du monde, mais où je suis chaque fois édifié et repris en voyant le rayonnement spirituel. les pépites d'or que des hommes et des femmes très pauvres vont recueillir au fond des Écritures et qui luisent dans leur regard, parce que leur cœur est habité. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leur froment et leur vin nouveau. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Mes amis, quel message, psaume 4, versets 8 et 9. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps ce soir. Nous introduirons demain soir par un parallèle avec Osée dans ce domaine. Et aussitôt, nous irons vers les deux dernières dimensions de ce territoire sacré, de manière à avoir une assise solide, biblique, et aussi appuyée par un témoignage intérieur du Saint-Esprit dans nos vies, pour construire, comme la Bible le fait, ces quatre R du réveil personnel auxquels vous et moi, nous sommes conviés, et conviés en permanence, parce que, confessons-le, nous nous endormons bien vite. Nous voulons prier maintenant. Seigneur, quel baume pour le cœur, quel médicament pour l'esprit, quel soulagement pour les nerfs, quelle force rafraîchissante pour le corps que d'avoir pu affirmer ce soir, sans hypocrisie, sur la base de ta parole, réalisée dans notre expérience avec toi, tu suffis pleinement en Jésus-Christ. Nous le proclamons ce soir, à la face des anges, de la puissance des ténèbres dans sa hiérarchie. Seigneur, nous le faisons avec fierté et avec reconnaissance. Nous avons en toi Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, parfaitement suffisant, et qui nous l'a prouvé ô combien en Jésus-Christ, dans sa vie et dans le sacrifice suprême de la croix. Ce soir, nous t'adorons, mais au moment où nous t'adorons, s'élève peut-être dans nos cœurs cette voix du Saint-Esprit qui nous reprend. Aide-nous à accepter, sans tergiverser, sans contrariété, à recevoir avec douceur ce que tu as planté en nous ce soir, si cela nous dérange. Peut-être devons-nous te dire pardon pour mon recul. Je me reconnais ce soir rétrograde. Pardon pour le premier amour, l'amour premier perdu. Pardon parce que je réalise que je suis en marche vers Moab, où je suis installé en Moab. Seigneur, aiguillonne nos cœurs par le Saint-Esprit pour que notre soif soit irrésistible de retrouver ce que nous avons perdu. Nous te bénissons pour la grâce, toujours renouvelée et puissante, en permanence, en Jésus-Christ, qui explose dans ce livre de Ruth, et qui est comme une invite à éviter le découragement, mais à ne pas passer à côté de l'humiliation. Merci de nous accompagner ce soir dans notre retour à la maison. Ne permet pas que les graines semées dans notre cœur se dispersent en chemin au gré de vents d'opposition, de doute, ou que sais-je encore. Seigneur, ne le permets pas. Aide-nous à gérer ce que tu nous as confié, à le repasser dans notre cœur et à le prolonger. Et puis prépare-nous pour les cultes dans nos églises respectives et pour une nouvelle soirée demain, de rendez-vous plus particulier avec toi dans ta parole. Nous te bénissons pour elle. Sanctifie-nous par elle, en Jésus-Christ.